BFM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag, Laure Closier.
Bonjour à tous et bienvenue dans Happy Boulot, le mag. Cette semaine, on reçoit la nouvelle génération de DRH, celle qui place l'inclusion au centre de tout. On va être avec la DRH de Back Market dans un instant. Elle va nous raconter comment elle joue à la chasse aux talents. Et puis, on va parler d'Human Model à la place de Business Model avec Véronique Subilo. Elle est coach et consultante chez BPI Group. La tendinite de la souris, la fatigue ophtalmique, je suis sûre que vous voyez ce que c'est. Il faut ne pas finir sa journée plus mal qu'on l'a commencé. Ça sera notre sujet avec la fondatrice de Yogist. Happy Boulot, le mag, c'est parti.
BFM Business, Happy Boulot, le mag, l'exécutif de la semaine.
Et notre exécutif de la semaine, c'est Alban Bressol-Châtaignier. Bonjour, vous êtes DRH de Back Market, 500 salariés, 600 à la fin de l'année, ça recrute. Back Market, tout le monde connaît, mais je redis quand même, entreprise de vente en ligne de produits reconditionnés, fondée en 2014. Vous recrutez beaucoup, vous recrutez quel type de personnes ?
On recrute beaucoup de tech, beaucoup d'ingénieurs, de développeurs et développeuses, bien sûr. Et on recrute aussi côté opération, du commercial, du marketing. On recrute partout. Et on doit recruter 300 personnes l'année suivante.
Ce qui veut dire quand même que 100 personnes sur une équipe de 500, ça fait que vous changez encore de dimension. C'est quand même un défi RH important pour vous. Vous avez une stratégie d'onboarding précise ?
Oui, déjà, on a quelqu'un qui est spécialisé dans l'onboarding chez nous, qui va accompagner tous les salariés du jour numéro 1 pendant les 3 premiers mois. Et on a mis en place énormément de diverses conférences, ateliers pour les salariés pour comprendre comment l'organisation de l'entreprise se fait, comment on travaille sur nos outils, quels sont les gens qu'il faut rencontrer et aussi avoir une expérience toujours personnalisée, parce que c'est pas parce qu'on recrute 100 personnes qu'on ne doit pas s'attacher à chacun et à savoir comment ils vont évoluer dans l'entreprise. Donc, il y a beaucoup d'attention là-dessus.
Vous êtes en compétition sur le marché avec toutes les autres scale-up qui veulent à peu près les mêmes, toutes les développeuses que vous voulez, qui ne sont pas si nombreuses. C'est quoi vos atouts pour les faire rester ?
Pour les femmes ?
Ah bah tout, pour tous.
Pour les faire rester, bah il y a beaucoup de choses. Déjà, je pense que le fait d'être une entreprise qui a une mission forte, qui a un vrai purpose et qui permet de se dire, on a un impact au niveau sociétal, au niveau environnemental, c'est quand même beaucoup plus sympa le matin de se lever et de se dire qu'on fait quelque chose pour la planète. Et puis après, ensuite, il y a énormément d'attention qui est faite au niveau de la mobilité interne, au niveau même des reconversions aussi en interne. On essaie de trouver aussi des moyens de promouvoir les gens, de pouvoir les faire monter en compétences, et aussi beaucoup d'attention sur la culture. On a une équipe qui est dédiée à la culture chez nous et qui s'occupe d'organiser les événements en interne, mais aussi de pouvoir à ce que les gens se retrouvent et puissent échanger.
Mais qu'est-ce qu'elle a fait cette équipe ? Elle a défini une culture d'entreprise noir sur blanc ?
Alors la culture d'entreprise, on la définit pas avec une seule équipe, ça se définit tous ensemble en interne. On a une valeur phare qui est le sabotage, et puis ensuite on a des principes, donc c'est-à-dire de se dire on a envie d'avancer tous ensemble, on a envie d'être une tribu qui s'aide les uns les autres, qui puisse pouvoir gérer les différents projets de telle façon à ce qu'ils avancent vite, rapidement et de la meilleure façon pour le succès de Back Market.
Vous faites partie des entreprises qu'on met en place un dispositif de bon de souscription de part de créateurs d'entreprises, les BSPCE, partage de la valeur, argument important pour les talents que vous recrutez aujourd'hui.
C'est hyper important. En fait, nous, on a choisi de l'offrir à tout le monde, c'est-à-dire de proposer ses bons et de participer à la réussite de l'entreprise. En revanche, on en fait un choix personnel, c'est-à-dire que, en fait, à tous les candidats qu'on veut recruter, on leur fait une triple offre, une offre avec BSPCE et une offre sans BSPCE et une offre avec encore plus de BSPCE. Et on se dit que c'est au choix du salarié, au choix de la personne, de se dire selon sa situation personnelle. J'ai par exemple un prêt immobilier qui fait que j'ai besoin de plus d'argent, ou alors je suis plus enclin à prendre le risque de prendre ses parts, et c'est la personne qui choisit son package.
Il y a des gens que ça intéresse pas ?
Il y en a très peu.
Non, oui,
tout le monde en veut. Très peu. Aussi parce qu'on a mis en place, par exemple, derrière la dernière levée, la possibilité à certaines personnes de pouvoir liquider ces bons de souscription et à la nouvelle valorisation de la boîte. Et donc, ça a permis aussi de voir la monétarisation de ces bons de souscription.
Vous êtes très active, vous, à titre personnel, dans la communauté Startup Scale Up sur l'évolution des RH. Vous pensez qu'il faut absolument, sur le partage de la valeur, il y a une action des entreprises pour les salariés.
Je pense que
tout le monde fasse ça, des BSPCE.
Bah, si tout le monde fait ça, je ne sais pas si les gens vont venir chez nous ou pas, mais je pense que c'est vraiment important. Ça permet d'engager les gens dans vraiment la réussite de l'entreprise et de pouvoir se dire, tiens, mon impact personnel dans mon job, il a un impact dans l'entreprise en général et dans le succès et dans les levées de fonds et dans dans le futur de la boîte.
Vous le disiez tout à l'heure, vous avez besoin de développeuses, de femmes dans la tech. Il y en a assez peu. Qu'est-ce que vous faites justement pour attirer spécifiquement ces femmes? Je crois que vous faites des formations dédiées.
Oui. Tout à fait. Au-delà, bien sûr, du côté quantitatif, parce que bien sûr, on a envie de recruter plus en plus de femmes. Il y a aussi le côté qualitatif. On s'engage énormément sur la parentalité, par exemple, et je pense que ça a un énorme levier sur la parité. Et donc, par exemple, on a levé la condition d'ancienneté pour les congés maternité et les congés second parent. Donc, on peut être payé à 100% dès le premier jour chez Back Market.
Et puis ensuite. Ça veut dire que vous recrutez des femmes enceintes ?
Oui, j'en ai recruté deux dans mon équipe d'ailleurs. Et ensuite, on accompagne aussi beaucoup sur le congé maternité. C'est-à-dire qu'avant le congé maternité, on propose un coaching particulier et pour la salariée et pour le manager, parce que le manager a un rôle crucial dans l'accompagnement de la parentalité pour pouvoir préparer bien son congé maternité et à la suite, pour bien revenir, se sentir serein dans son nouveau poste ou dans le poste qu'on occupait, savoir ce qui s'est passé, savoir s'il faut adapter ses horaires.
Et c'est intéressant, vous formez les managers au retour de la salariée de congé maternité.
Exactement.
Ça veut dire qu'il y a des managers qui ne savaient pas en fait comment faire, qui n'avaient pas les clés.
Il y a beaucoup de managers en fait. Tant qu'on l'a pas vécu, on sait pas vraiment. Quand on n'a pas été parent, on sait pas ce que ça veut dire. Et donc il faut pouvoir éduquer aussi là-dessus. Et on éduque aussi les managers sur la diversité et l'inclusion. Donc on a une formation obligatoire pour tous nos managers sur ce sujet-là.
Et alors ils apprennent quoi ?
Ils apprennent à savoir comment créer une équipe beaucoup plus diverse, comment les inclure, comment promouvoir de façon équitable les gens dans leurs équipes, comment faire passer des entretiens de façon très inclusive en évitant les biais inconscients. Donc il y a énormément de sujets divers et aussi l'obligation légale, quelles sont les obligations légales en fonction des pays puisqu'ils sont assez différents.
Comment vous êtes réorganisée là en retour de crise sanitaire chez vous à Back Market ?
Alors on a fait un système un peu hybride, je pense qui est assez général à toutes les startups et scale-up, mais qui est il faut que les gens reviennent 2 jours par semaine en entreprise et ensuite ils s'arrangent comme ils veulent pour travailler à la maison. On essaie aussi de donner les moyens pour les gens de travailler mieux à la maison, donc à travers des bureaux, des sièges ergonomiques, toute cette partie-là.
Et puis aussi donc vous financez du matériel pour le télétravail.
Oui, tout à fait, exactement.
Ce qui n'est pas obligatoire, ce qui est un choix de l'entreprise. Si je veux ne pas revenir, je peux ?
Revenir au travail.
Au travail, j'entends.
Alors, on peut demander, nous, on a mis une condition d'ancienneté, d'un an d'ancienneté, pour avoir bien en tête la culture et la performance de l'entreprise. Et ensuite, on peut demander, en fait, un full remote et à revenir c'est une semaine par quarter.
Ah oui, donc je reviens à ce moment-là et le reste du temps, je peux rester chez moi. Donc je peux avoir déménagé sans aucun problème.
Je peux avoir déménagé. Moi, je vais d'ailleurs déménager à Bordeaux puisqu'on a aussi des bureaux à Bordeaux.
Donc vous allez vous mettre... Non, vous ne serez pas en 100% télétravail, vous irez un peu au bureau. Recrutement donc beaucoup pour l'année prochaine. Onboarding difficile. Vous avez toujours envie de gérer des gens en tant que DRH. Je vous dis ça parce que j'ai l'impression qu'en cette rentrée, c'est pas que plus personne ne veut travailler, mais c'est qu'on a besoin d'une remotivation. Parfois, on n'a plus envie. Gérer des gens, ça vous intéresse toujours?
J'adore. J'adore gérer les gens.
Parce que c'est des problèmes quand même.
Mais ouais, mais c'est des problèmes qu'il faut résoudre. Et c'est pas des problèmes qu'on résout avec des formules mathématiques. Donc il faut écouter, il faut comprendre, il faut pouvoir prendre le pouls de l'entreprise, savoir ce que les gens ont besoin en fait pour pouvoir s'améliorer, se sentir engagé dans l'entreprise. Donc c'est hyper intéressant, c'est hyper challengeant, mais c'est un métier passionnant. Ouais.
Vous dites pas il me saoule de temps en temps.
Non.
Non. Deux minutes, mais après je me reprends tout de suite. Back Market a levé beaucoup d'argent ces dernières années. Qu'est-ce que ça change quand on a levé beaucoup d'argent? Est-ce qu'on a des salariés qui parfois ont l'impression que c'est open bar?
Oui, alors on fait attention. D'ailleurs, ça fait partie de notre set de principes et de nos valeurs. Minimum ressources, maximum impact. C'est de se dire, c'est pas parce que on a levé énormément de fonds qu'il faut le dépenser à tout va, le dépenser n'importe comment. Donc, quels sont les sujets les plus impactants? Quels sont les projets qu'on veut mener en premier? Parce que de toute façon, on a énormément de projets. Donc, savoir quelles sont les priorités, et ensuite ça nous permet de s'étendre aussi à l'international, puisque Back Market, bien sûr, qui est une entreprise française à la base, on veut être une entreprise mondiale, et donc c'est de pouvoir
on dépense l'argent chichement, on n'est pas
on dépense l'argent sereinement et efficacement.
Ouais, dernière question, vous avez beau être une entreprise moderne, ultra qui réfléchit à son impact, vous avez dû faire des corrections de salaire sur les hommes et les femmes. Malgré toutes vos formations, malgré tout ça, à un moment donné, il faut prendre les grilles et regardez ce qui s'est vraiment passé.
Exactement.
Vous avez fait combien de corrections ?
16 sur 200 femmes. C'était il y a un mois. Et en fait, c'est hyper important. Même si on a dans cette tête l'effort de se dire il faut qu'on fasse mieux, il faut qu'on fasse plus. Je pense qu'il faut toujours regarder la data. Il faut toujours regarder où est-ce qu'on en est. Les femmes ont tendance à moins négocier leur salaire que les hommes. On a mis en place des grilles de salaire. Mais pour autant, il faut toujours essayer de vérifier si on est bien, si on est fair, si on est équitable. Et pour aller vers beaucoup plus d'égalité. Ouais.
Donc les grandes idées, ça ne suffit pas. À un moment donné, il faut quand même regarder carte sur table ce qui se fait. Merci beaucoup, Exactement. Alban Bressol-Châtaignier, d'être venu nous voir, DRH de Back Market. On va continuer à parler de l'humain et du human model.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Better Together.
Et on continue de décortiquer les RH ensemble. On est avec Véronique Subilo. Bonjour, directrice adjointe de Bonjour. BPI Group. Vous êtes aussi coach. Vous avez été DRH de Transdev. Vous avez travaillé au RH de Bolloré. Vous n'êtes plus DRH?
Et non, je suis dans le conseil aujourd'hui. Il se passe tellement de belles choses sur le marché que j'ai envie de travailler pour plein de clients. Et c'est ce que je fais aujourd'hui.
Comment vous les trouvez, les DRH? On a entendu tout à l'heure la DRH de Back Market. Vous les trouvez combatifs, déprimés? Ils sont comment?
Hyper combatifs. D'ailleurs, pendant le Covid, moi, j'ai lancé un petit appel en disant hashtag les DRH, c'est héros. Ils ont été quand même en front. Ils ont été là pour mener tout le chômage partiel, mais mener aussi les politiques de sécurité, mener aussi les politiques d'engagement. Et moi, je leur tire un grand, grand coup de chapeau. Alors après, évidemment, tout ça fatigue et il faut tenir le rythme. Donc, comme tous les collaborateurs, il faut se garder en énergie.
On le disait juste auparavant avec Alban Bressol-Châtaignier, il y a un problème d'envie en cette rentrée, d'envie de bosser, de retourner au bureau, de se remotiver, d'avoir des horaires. C'est difficile de gérer de l'humain. Comment ça se passe dans les équipes ?
Ben oui, parce qu'en fait, nous on l'a vu pendant le Covid, moi comme vous le disiez, je suis coach, cette période elle a été compliquée pour tout le monde, il faut quand même bien voir qu'il y a eu cette notion de métier essentiel et non essentiel qui a émergé, il y a eu ce chômage partiel un petit peu soudain pour certains, pas bien expliqué pour d'autres, qui fait que tout le monde s'est posé la question de c'est quoi mon impact et c'est quoi la société dans laquelle je vais vivre et donc c'est dans quelle entreprise que je veux travailler. Et ça, c'est assez nouveau. Et donc oui, effectivement, la question c'est est-ce que mes valeurs sont alignées avec l'entreprise et à quoi je contribue aujourd'hui ?
Tout le monde se pose cette question, manager, salarié, tout le monde a vécu des chamboulements.
Tout le monde, après ça a été plus ou moins extrême, vous avez eu des vraies crises existentielles, mais cette question de c'est quoi mon impact et c'est quoi l'entreprise pour laquelle je veux travailler, clairement tout le monde se la pose.
Ce qui veut dire qu'il y a des salariés aujourd'hui qui challengent leur DRH, leur manager, qui leur demandent quoi ? Des comptes ? Où je vais ?
D'abord, on a le gros sujet du télétravail. La grande question, c'est je reviens combien de temps travailler ? Et toutes les études nous montrent que plus de 80% des salariés disent « moi, je ne veux pas revenir travailler à temps plein ». Et quand on dit « on va travailler en mode hybride », alors ce qui se fait sur le marché aujourd'hui, c'est 2 à 3 jours, ça implique quoi ? Ça implique la confiance avec son manager. Donc ce qu'ils disent au manager, c'est « je veux bien continuer à travailler si mes valeurs sont respectées et si la confiance est là ».
Sauf que la confiance, on le voit, c'est à géométrie variable, en fonction des boîtes, en fonction des équipes. Là, c'est on tire son numéro, puis c'est de l'auto. Hein.
Alors, la confiance, elle se décrète pas, elle se vit. Et là, c'est bien tout le rôle du manager.
Et alors, comment vous faites, vous qui êtes coach et qui conseillez en ressources humaines, pour leur dire, il faut faire confiance, détendez-vous, lâchez la bride, et faites, comment on fait confiance ?
En fait, on forme beaucoup les managers à ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Donc l'intelligence émotionnelle, c'est quoi ? C'est toutes ces émotions qui deviennent des compétences en entreprise, toutes celles qui se terminent en T. Alors on a agilité, créativité, authenticité, hein, se présenter tel qu'on est, mais aussi bienveillance, jugement, etc. Et on est dans un changement de paradigme. Parce qu'en fait, c'est du management, mais c'est du nouveau management. Alors ça a commencé depuis quelques années, hein, mais la crise du Covid a accentué ça. Là où on était sur... En caricaturant, je te dis quoi faire et tu le fais. Aujourd'hui, c'est je manage l'intelligence collective et je fais en sorte de t'embarquer. Alors, il y a plein de techniques qu'on partage avec eux.
Alors, c'est quoi ces techniques ?
Alors, bon, je vous en donne une par exemple, la technique des quatre questions. La technique des quatre questions, c'est vous faites un entretien annuel. Plutôt que de commencer par c'est quoi tes objectifs, c'est quoi tes résultats, il va falloir aller chercher le collaborateur dans ses tripes et dans son cœur. Comment on fait les quatre questions ? Je vous les pose. Un, est-ce que vous vous amusez ? Est-ce que vous prenez plaisir au travail ? C'est le levier du plaisir au travail, extrêmement important. Deux, est-ce que vous apprenez ? Toutes les études nous montrent que si on n'apprend plus dans son poste, on s'ennuie et on n'est pas efficace. Trois, est-ce que vous vous sentez reconnu et valorisé ? Parce que l'humain a besoin de reconnaissance. Et quatre, c'est le grand, grand, grand sujet d'aujourd'hui. Est-ce que ce que vous faites fait un sens ? Alors, quand je dis ça aux managers, je leur dis, vous commencez comme ça, ils me disent, mais oh, et si on me répond non ? Alors, oui. Si on vous répond non, eh bien, il faut dire, et qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous répondiez oui ? Sans vendre du rêve, parce que ça permet de mettre tout le monde acteur, et ça permet que chacun trouve sa juste place. Vous répondez non à apprendre, eh bien, on va vous donner des projets transverses. C'est plein de petites techniques comme ça.
Mais est-ce que c'est pas un peu idéaliser l'entreprise et ce qu'elle doit apporter à l'individu ?
Non. Aujourd'hui, vraiment, la notion de plaisir au travail et d'engagement est clé pour la raison qui est que les salariés se posent tellement de questions qu'aujourd'hui, ils veulent plus travailler pour n'importe quelle boîte, entre guillemets. Et on le voit bien, hein, les étudiants et les jeunes générations commencent à dire, mais attention, je veux extrêmement comprendre quelles sont les valeurs et ce à quoi je contribue dans la société. Donc si on ne fait pas ça, c'est ce que j'appelle moi le human model, le comment dans l'entreprise, on passe à côté. On passe à côté de tout et on n'est pas performant parce que, moi j'aime dire, la manière de faire est aussi importante que le résultat, voire elle le drive. Donc le comment et le pourquoi prend autant de place et c'est une excellente nouvelle que le quoi.
Business Donc la model, culture du résultat change, on s'intéresse à la manière dont on arrive à ses fins.
En fait, c'est les deux, c'est-à-dire qu'on était très focus sur le résultat uniquement, et on est en train de réaliser que pour atteindre le résultat, évidemment, on travaille avec des hommes et des femmes et des humains, eh bien, il faut s'intéresser au comment. Parce que chacun a envie de se sentir en lien, et c'est très intéressant, c'est-à-dire que, vous voyez, cette notion de lien, par exemple, en entreprise, pendant le Covid, en fait, elle a émergé pour les salariés, c'est-à-dire que c'était considéré comme un acquis. J'allais au travail, je prenais ma pause café, etc. Dès l'instant où on a été coupé de ça, c'est là où les salariés ont dit, mais en fait, ce que je fais dans mon poste est important, mais comment je le fais, avec qui je le fais et où je le fais, l'est tout autant. Et moi, je me souviens, j'étais DRH, comme vous le disiez précédemment, j'avais beaucoup de gens qui me disaient, tiens Véronique, j'ai ce poste-là, qu'est-ce que t'en penses sur le fond ? Et à chaque fois, je répondais, qui est ton boss ? Qui sont tes collègues ? Et quelles sont les valeurs de l'entreprise ?
Mais il faudrait carrément réécrire les fiches de poste, en fait.
Dans les fiches de poste, aujourd'hui, vous avez quand même des notions, effectivement, d'intelligence émotionnelle, de compétences, de ce qu'on appelle les savoir-être, mais il faut accentuer ça. Et d'ailleurs, la vraie compétence d'aujourd'hui et de demain, c'est savoir apprendre. Tout bouge tellement vite que le sujet, c'est pas, vous voyez, l'obsolescence des compétences. Là où une compétence technique durait 30 ans avant, aujourd'hui, elle dure 2 ans. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut être en capacité d'apprendre. Et c'est ça qu'on demande de plus en plus aux salariés.
Donc, dans vos séances de coaching individuel ou collectif, ouais. La place de la communication a pris une place essentielle.
Alors, la place de
comment
la communication...
Comment dire les choses, comment...
Tout à fait. Mais la première chose pour bien communiquer, c'est de se connaître soi-même.
Alors, vous dites il faut venir comme on est, tout dire, vraiment, il faut être honnête complètement, dire moi, j'ai des enfants, j'ai ceci, j'ai cela, je suis rotor.
Alors, toujours pareil, hein, il faut avoir le respect. Et c'est toujours pareil, on peut tout dire, mais il faut faire attention à la façon dont on le dit.
Non, mais sur soi-même, est-ce qu'on doit être totalement honnête sur qui on est ? Parce qu'on vient quand même d'un monde du travail où on faisait beaucoup semblant.
Tout à fait. Et bien, en fait, nous, ce qu'on prône aujourd'hui, et moi, ce que je prône vraiment, c'est de partager ses ressentis. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe en moi ? Qu'est-ce que je ressens ? Là, je suis dans une réunion, je vois que ça ne va pas, je sens que c'est pas juste. C'est pas juste, je me sens pas à l'aise, etc. Et de pouvoir partager ses ressentis. Nous, on encourage les managers à partager ce qu'ils ressentent. La question, c'est pas qu'est-ce que tu penses, elle est importante, hein, c'est toujours pareil, mais qu'est-ce que tu ressens ? Et dès l'instant où on pose son ressenti sur la table, en partant, hein, c'est de la communication non violente, de « je ressens ça, je n'agresse personne », tout à coup, il y a un truc qui se pose. Et c'est là où j'ai envie de dire la magie opère. Mais ça, pour partager ses ressentis, il faut quand même, comme vous le dites...
Parce que parfois, les excès de sincérité peuvent être un peu difficiles, quoi, pour les autres.
Après, j'ai envie de dire, il faut faire appel à l'intelligence des situations. Hein, on ne va pas tout dire. Mais on s'autorise quand même à partager ce qui se passe là, au niveau du cœur et des tripes. Parce que sinon, on est dans un monde de faux-semblants, on est dans un monde politique, et plus personne ne veut de ça. Aujourd'hui, on le voit bien dans les études, les collaborateurs, d'ailleurs, pendant le Covid, on leur a dit, mais qu'est-ce qui a été important pour vous ? Que mon manager m'appelle et qu'il me demande comment je vais.
En vrai.
En vrai.
Pas qu'il m'envoie un mail automatique en espérant que je vais bien.
Exactement.
Donc l'authenticité, c'est essentiel. Merci beaucoup, Véronique Subillot, d'être venue nous voir dans Happy Boulot, le mag. On va continuer à parler de l'humain, mais du corps de l'humain. Il faut aussi qu'il aille bien.
BFM Business. Happy Boulot, le mag. Business Case.
Fatigue ophtalmique, tendinite de la souris, je suis sûre que vous voyez de quoi je parle. Comment prendre soin de vous au bureau ou chez vous, au bureau de chez vous? On est avec Anne-Charlotte Vuccino, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice de Yogiste. Yogiste, c'est pas du yoga, c'est du bien-être au bureau.
Yogiste, c'est une méthode que j'ai développée à partir du yoga classique, mais pour lutter contre les impacts de la sédentarité, du travail sur écran, finalement de tous nos nouveaux usages digitaux, surtout depuis la Covid et le télétravail généralisé.
On s'en rend pas compte parce que le bureau, la sédentarité, ça abîme nos corps, mais doucement. C'est-à-dire qu'on a pas mal tout d'un coup, quoi. Ça arrive... Alors, lentement.
Oui, c'est assez insidieux. On avait beaucoup parlé de la pénibilité pour des boulots dans les usines, pour les opérateurs debout sur les lignes de production. On ne parlait pas vraiment des cadres dans le tertiaire ou dans les grandes tours de la défense. Alors qu'en réalité, le prochain mot, la prochaine épidémie de mots qui vont nous arriver dessus, à nous tous les travailleurs et télétravailleurs, c'est les troubles musculo-squelettiques, c'est ces nouvelles tensions chroniques qui sont liées au manque de mouvement physique, au fait qu'on est vissé sur nos écrans toute la journée alors que nos corps et nos cerveaux ne sont pas du tout fait pour ça.
Moi, je vois très bien ce qui se passe là dans les DRH, c'est qu'en gros, quand on est conscient du problème, on prend une appli. On prend une appli et on dit, vous allez qu'à suivre les conseils, mais on se dit pas, on prend pas ça comme un problème global pour tous les travailleurs.
Oui, alors ça ne marche pas. Hein. Refourguer une application à tous ses collaborateurs en leur disant débrouillez-vous avec ça, ça ne marchera jamais. Si vous ne faites pas d'abord de la sensibilisation, ça peut être au poste de travail dans les open space, ça peut être dans un séminaire interne, ça peut être par surprise avec le comité de direction, mais il faut absolument embarquer les équipes et leur faire prendre conscience qu'il y a un problème, qu'il faut absolument prendre ces troubles musculo-squelettiques au sérieux et ces impacts du stress et de l'hyperconnexion au sérieux. Et puis ensuite, il faut prendre le temps d'enseigner ces techniques, de former collectivement et régulièrement, comme des rituels de management, finalement, ces équipes. Et puis ensuite, éventuellement, les applications, et on en a une chez Yogiste, hein, ce sont des outils digitaux pour accompagner individuellement chaque collaborateur. Et enfin, la dernière étape qui, selon moi, est la plus indispensable, c'est de former des ambassadeurs, des relais, des référents au sein des équipes. Ça peut être les managers ou des collaborateurs volontaires qui vont faire vivre ces démarches de qualité de vie au travail. Sinon, on reste seulement sur des coups d'épée dans l'eau et des coups de com'.
Et qu'est-ce qu'ils vont faire concrètement ces ambassadeurs, ils font le tour des bureaux en disant « Toi, t'as pas bougé depuis 2 heures ?»
Alors, ils peuvent. Ça peut être des sentinelles qui repèrent les signaux faibles, mais ça peut aussi être des gens qui vont avoir pour mission, avoué ou non, mais avec un diplôme, c'est quand même beaucoup plus facile à assumer, de prendre soin de leurs collègues. Ça peut être de proposer une pause mentale ou une pause physique au début d'une réunion. Ça peut être de proposer à sa voisine qui est toute tordue sur son écran, de lui montrer la bonne position assise sur son ordinateur. Ça peut être tout simplement de diffuser les bonnes pratiques de santé au travail au sein des équipes, parce que les personnels de santé au travail, les infirmières, les médecins, ont autre chose à faire, surtout pendant la période...
Oui, puis c'était le CHSCT qui faisait ça. Il y avait des ambassadeurs avant. Tout ça, ça n'existe plus au sein du... Il y a le CSE maintenant, mais il n'y a plus d'ambassadeurs santé. Ça intéresse les salariés dans les équipes ou c'est comme dans les classes où il y a un parent d'élève, ça embête tout le monde et on en prend un au pif?
Chez Yogiste, on a créé une académie de formation pendant le premier confinement qui est éligible au CPF. Donc ce sont essentiellement des collaborateurs volontaires qui utilisent leurs points de leur compte personnel de formation pour venir se former et qui ensuite retournent voir leur DRH en disant « J'ai un diplôme pour prévenir le stress et les troubles musculo-squelettiques dans mon équipe. Est-ce que je peux endosser cette charge et avoir cette mission auprès de vous dans mon organisation ?» Donc c'est assez étonnant de voir que finalement
donc,
ce sont
vous,
les collaborateurs qui ont cette vocation.
Carrément un plus, quoi, hein, limite. Un plus sur le CV
C'est un plus sur le CV. On a certains de nos stagiaires qui nous ont dit que ça avait été une aide à l'embauche de mettre ça sur leur CV. Mais c'est tout simplement l'officialisation d'une vocation, d'une volonté que des collaborateurs ont d'avoir ce rôle-là au sein de leur organisation parce qu'ils sont convaincus que c'est important pour la profitabilité, pour la performance, de prendre soin du corps et de l'esprit des équipes, et qui du coup se donnent les moyens de le faire avec ou sans l'accord de leur DRH. Et c'est assez étonnant de voir ça aujourd'hui.
Alors qu'est-ce qu'il faut faire à part bouger? Parce qu'en fait, le problème, c'est quand même d'être tout le temps assis sans rien faire. Qu'est-ce qu'il faut avoir en tête?
Alors bouger, c'est déjà pas mal, hein. Les experts recommandent de bouger 2 minutes toutes les 20 minutes. Personne ne fait ça.
Non, personne.
Ça veut dire interrompre une réunion Zoom. Donc évidemment, il faut prendre toutes les opportunités pour bouger, se lever de sa chaise. Mais dans la méthode yogiste, on a défini une centaine de micro-exercices qui vont cibler les zones du corps qui souffrent du stress et de la sédentarité et qui vont vous permettre en fait de soulager les tensions, mais surtout de les prévenir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire étirer régulièrement votre dos et l'arrière de vos jambes pour prévenir les lombalgies, les sciatiques. Ça veut dire prévenir le tech-neck ou le tech-neck qu'on a à force de faire la poule devant notre écran en renforçant les muscles des cervicales. Ça veut dire respirer même avec un masque sur le nez, sinon votre cerveau n'est pas oxygéné, c'est le trou noir et évidemment on
tout
sera
ça pendant
bon.
Qu'on travaille sans avoir besoin de s'arrêter ou de se mettre un réveil pour dire là faut que je me lève.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire faire une pause une fois que votre journée est terminée ou votre semaine ou votre grosse deadline est passée, ça n'a pas grand intérêt. C'est pendant le coup de bourre, c'est quand on n'a pas le temps qu'il faut absolument prendre cette pause. Et donc les pauses yogistes, elles durent 2 minutes chrono et c'est pour ça qu'on a développé un garde du corps en ligne qui va vous rappeler l'heure toc toc, ça fait 2 heures que vous enchaînez les interviews, il faut faire une pause, et qui va vous proposer en fonction de vos besoins, en fonction de là où vous avez mal, de faire une pause pour le cou, pour les yeux, pour le dos ou tout simplement de vous reconcentrer.
L'objectif, c'est de tenir la durée en fait.
L'objectif, c'est de travailler ou télétravailler sans vous abîmer. Parce que c'est quand même dommage de rentrer dans une journée et de la finir en moins bon état qu'on l'a commencé. Et ça, c'est de la responsabilité de l'entreprise et du salarié.
Merci beaucoup Anne-Charlotte Vuccino, fondatrice de Yogist, d'être venue nous voir dans Happy Boulot le Mag. C'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine au même endroit. Je vous souhaite un excellent week-end sur BFM Business.
BFM Business, Happy Boulot le Mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.